D'abord, il a fallu être comme tout le monde. Il a fallu être blanche, théâtralement blanche, ou plutôt théâtralement blanc au masculin, composé au masculin.
Je n'ai plus d'accent. Te souviens-tu quand j'en avais un ? Je n'ai plus de tresse. Te souviens-tu quand j'en portais ? Je me tiens trop droit et ma façon de me déplacer n'est plus assez nègre. Te souviens-tu quand elle l'était ?
Où veux-je en venir ? À cette idée que nul ne colonise innocemment, que nul non plus ne colonise impunément, qu'une nation qui colonise, qu'une civilisation qui justifie la colonisation, donc la force, est déjà une civilisation malade, une civilisation moralement atteinte, qui, irrésistiblement, de conséquence en conséquence, de reniement en reniement, appelle son Hitler, je veux dire son châtiment. Écrite en 1950, cette analyse de Césaire demeure cependant inconnue du monde des arts. La structuration raciale des mentalités et des représentations vient de loin. Songeons aux représentations antisémites qui abondent en Europe depuis le Moyen-Âge, à celles stigmatisantes des Noirs qui se répandent à partir du XIXe siècle, aux journaux de voyageurs européens, séparant le monde entre civilisés et non-civilisés, aux zoos humains, à la littérature coloniale, aux images diffusées par la photographie et le cinéma pour soutenir l'idéologie coloniale raciste, aux images misogynes et homophobes qui ont nourri et continuent à nourrir les imaginaires et les pratiques. Et malgré les ouvrages, études et thèses sur ce long développement, l'opposition des castes culturelles françaises à leur propre décolonisation reste grande. Les témoignages abondent sur cette opposition. Du refus de considérer un projet parce qu'il n'intéressera pas les publics, aux remarques sur la couleur de peau, un prénom, une origine réelle ou supposée, une religion réelle ou supposée, de l'assignation à des rôles en majorité négatifs pour les Noirs, Asiatiques et Maghrébins, Maghrébines, à l'universalisme accordé aux Blanches, Blancs qui peuvent jouer tous les rôles. La liste est longue. Les exemples quotidiens. Les discriminations prouvées. Françoise Vergès.
C'est en changeant notre société en profondeur, de la psyché du groupe à celle de l'individu, que nous préparons les générations futures à la liberté de leur création et de leur acte, en deçà et au-delà des frontières intellectuelles, économiques et politiques qui les aliènent. Ce qui m'intéresse à travers ma pratique artistique, des recherches à la production d'œuvres, de publications ou de débats publics, c'est d'essayer de démanteler l'opacité du récit national des anciens empires coloniaux, qui cache la diversité qu'ils prétendent reconnaître, laquelle ne voit finalement le jour que de manière sporadique et à travers le sport, et parfois le divertissement. Or, le seul champ d'expression théorique et émotionnelle de l'art, seul le champ d'expression théorique et émotionnelle de l'art nous donne accès à une lutte que le champ politique ou même économique ne permet pas. Pourquoi ? Parce que l'activité artistique, théorique ou poétique agit au plus profond de la psyché des êtres de toute culture, genre, âge et religion. C'est pour moi un enjeu fondamental pour réparer les blessures du passé. Ces blessures immatérielles aujourd'hui, parfois encore bien matérielles dans certaines régions du monde où la colonisation et l'occupation persistent. Kader Attia.
Dans le travail de beaucoup d'artistes racisés, je vois naître des dramaturgies hybrides, savantes et passionnantes, des bricolages créateurs et sans formatage, dans un mixage des esthétiques et des références culturelles. Des œuvres qui plongent les mains dans les profondeurs de l'histoire et de la mémoire, qui portent l'empreinte de leurs projets politiques et font émerger des singularités inouïes. Mais il faut se méfier des essentialisations et assignations, tout comme du mythe d'une revitalisation de l'art ou du théâtre français par la présence d'interprètes racisés, ce qui serait entretenir un autre fantasme colonial. Marine Bachelot-Nguyen.
Dans le même temps, sur une toute autre planète, la galaxie École, on ignore la diversité. Même si l'école a des chiffres sur les nationalités présentes, on n'y reconnaît pas la diversité dans ses récits. Pire, dès l'entrée en maternelle, on demande à l'enfant de ne pas être ce qu'il est. Laisse au vestiaire ton histoire différente et endosse la blouse républicaine. À défaut d'avoir une culture transmise par les parents, l'enfant migrant a une histoire singulière. L'école la nie. Serait-elle coloniale ? Surdité, ignorance, violence. À la diversité des histoires, la diversité visible lui substitue une réalité plus photogénique, plus marketing, moins dérangeante. C'est l'effet Benetton, un plateau de fruits exotiques. Beaux fruits, mais fruits muets. Face à la surdité, parler. Face à l'ignorance, transmettre. Face à la violence, faire de la pédagogie. Myriam Daou.
Pour moi, le plus important est de décoloniser la pratique de l'acteur. Encore aujourd'hui, il y a une uniformisation des phrasés et des parlés. Les accents sont toujours proscrits sur les scènes institutionnelles. Et comme celles-ci font la norme, elles sont suivies par toutes les scènes de théâtre. Le phrasé qui se prétend un non-accent est le parler de la bourgeoisie parisienne. Une minorité le parle. En France, ce phrasé m'éloigne de la représentation si je viens de la cité Castellane à Marseille, du Mirail à Toulouse, de Coquerie-à-Ville au Havre, de la région de Foix en Ariège, de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe ou même de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Non seulement je ne peux pas m'identifier aux acteurs qui parlent ainsi, mais je me sens infériorisée. Je pense que toutes les démarches de formation destinées aux populations discriminées, des acteurs issus des diversités, sont des opérations de blanchiment des apprentis comédiens par le phrasé, la manière de jouer, ou de déruralisation dans le cas des campagnes. Eva Doumbia.
Je suis la seule artiste racisée noire au sein des trois ensembles professionnels de Radio France. L'ONF, l'Orchestre Philharmonique et le Chœur. Ma tristesse s'intensifie quand je cherche sans le trouver un visage métisse, noir, asiatique, arabe dans la salle. Je suis encore trop souvent la seule personne non blanche dans un théâtre de 2500 places. Certes, les professionnels asiatiques sont présents, mais ce sont rarement des Français d'origine asiatique. Ce sont des étrangers qui ont réussi des concours d'entrée des orchestres ou chœurs et qui, pour les intégrer, sont venus s'installer en France, comme les Italiens, Russes, Polonais, etc. En résumé, ni le public, ni les acteurs de la musique classique ne représentent la diversité de la population française. Daya Durimel.
Le terme racisé, pourquoi ? Ça dépend où, ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi. Comme je l'ai dit précédemment, je me décris comme meuf noire, grosse, queer, catho-valide, et dans le cadre militant, je peux aussi utiliser le terme racisé. Parce qu'il réveille. Parce qu'il est actuellement ce qui révèle le plus le problème qui me concerne. Il élève ma phrase dans des sphères de réflexion. Il raconte le regard posé sur moi, celui que je ne pouvais pas nommer il y a peu. Parce que j'ai mis du temps à comprendre que j'étais noire, mais que les autres l'avaient vu bien avant moi. Il me fallait un mot pour cette sensation. Je l'utilise si je me sens d'expliquer ce qu'il veut dire à l'auditeur, à l'auditrice. Sinon, je paraphrase. Ce terme me manquait, je crois. Non, je sais qu'il me manquait. Quand je l'utilise, j'aime sentir ce qu'il provoque. Soit l'approbation d'un ou d'une militante comme moi, soit un profond questionnement. Peut-être que ce mot peut éduquer à lui seul. Définitivement, ce mot fait débat à lui seul. Il clive parce qu'il est sans détour. Il fait peur. Il me ressemble. Moi-même. Je ne suis pas arabe. Je ne suis pas une minorité visible. Je ne suis pas une musulmane. Je ne suis pas un jeune de banlieue. Je suis tout sauf une beurette. Je ne suis pas basanée. Je ne suis pas assimilée. Je ne suis pas marocaine. Je ne suis pas issue de l'immigration. Je ne peux pas dire que je suis française. Je ne suis intégrée à rien du tout. Je ne suis pas bronzée. Dans cet extrait d'arabe, je mêle assignation et préjugés racistes auxquels j'ai été au moins une fois confrontée, sachant que le terme « bronzé » était employé par ma sœur dans les années 90 pour se désigner elle-même. J'ai souvent eu la sensation d'être frappée de mutisme, car, à vrai dire, les autres projetaient tellement de choses sur moi que je passais mon temps à expliquer pourquoi, par exemple, le terme « beurette » était problématique à mes yeux. En racontant qu'adolescente, j'avais été heurtée par le fait qu'une des premières apparitions d'un personnage de jeune fille maghrébine soit interprétée par la star du porno Tabata Cash. De la figure lascive de la mauresque au sein dénudé à la beurette championne des sites pornographiques, comment s'inventer une féminité qui ne donne pas envie de faire disparaître ce corps à tout prix pour espérer laisser place à d'autres interactions? Le terme racisé permet de raconter ce faisceau d'assignation et de projection, puisque c'est bien le racisme qui crée ce regard. Karima Alkaraz.
Dans le contexte français, mon assignation raciale a un sens particulier pour celles et ceux qui appartiennent à la norme et donc à l'histoire de la domination, de l'extermination et de l'asservissement de nombreuses minorités. Comment, dans ce contexte-ci, identifier et nommer mon expérience de vie qui est différente de celle d'une personne blanche, sans le concept de racisation? Et quand on me rétorque que le terme racisé risque de faire revenir le racisme biologique, je réponds qu'on se situe sur le plan pratique et politique, pas sur le plan moral ou théorique. Ma vie au quotidien est déterminée par le fait que je suis identifié comme noir. C'est ma réalité. Peu importe les idéaux universalistes, mon expérience est celle du traitement différencié et des discriminations. Sans outils comme le mot... Je me suis perdu. Ah. Bah dis donc, Amandine, qu'est-ce que tu me fais là? Noir, c'est ma réalité, peu importe les idéaux universalistes. Mon expérience est celle du traitement différencié et des discriminations. Sans outils comme le concept de race en tant que construction sociale, sans des termes comme racisé ou racisation, je ne peux pas m'expliquer et révéler aux yeux de toutes et tous ma situation. Bourdieu disait « les mots sont importants » et dans un article, Cécile Canu écrivait « nommer, c'est faire exister ». Ces deux phrases résument bien le pouvoir que renferme le langage selon moi. Pour moi, le terme racisé permet donc de conceptualiser, dénoncer et rendre visible l'expérience des minorités en contexte occidental. Amandine Gay. Mon corps racisé me parle et voici ce qu'il me dit.
Te souviens-tu ? Et je te parle. C'est ton corps racisé qui parle. Te souviens-tu ? Te souviens-tu de l'histoire silencieuse que je contais à tes camarades ? Tout ce que ma seule présence faisait naître dans leur imaginaire ? Te souviens-tu de la façon dont tu as essayé de me faire oublier, de te séparer de moi, ton propre corps ? Pour raconter quoi ? Des histoires qui ne s'adaptent finalement pas à ta forme, à ta couleur, à ta douleur. Ce corps autre aurait pu en raconter tellement d'histoires différentes, toutes d'ailleurs, même la tienne. Te souviens-tu que ma façon de te porter n'était jamais la bonne ? Te souviens-tu que ma façon de me déplacer n'était jamais la bonne ? Même lorsque je tentais de ne plus me ressembler. Te souviens-tu qu'on te demanda de me raser la tête, que mes cheveux frisés empêchaient tes professeurs de voir le personnage qu'ils souhaitaient voir ? Que c'était trop toi ? N'avais-je pas ce droit, être moi ? Mais te souviens-tu, lorsqu'on te demanda de me faire zouker afin de te détendre pour ce personnage que tu n'arrivais pas à trouver, afin d'être toi ? Est-ce cela, toi ? Est-ce cela, moi ? Jalil Leclerc.
Il convient maintenant de se poser la question suivante. Ces êtres, les Noirs ou les colonisés et leurs descendants, qui ont été classés, essentialisés dans le rôle de subalternes, relégués au domaine du profane, le plus loin possible du corps sacré, peuvent-ils naturellement et sans réticence être admis à exercer leur imaginaire dans les divers temples qui manifestent le pouvoir et la domination de l'homme blanc ? Cette question peut paraître comme une provocation aujourd'hui, mais elle a le mérite de nous forcer à penser plus loin que les chiffres, plus loin que les statistiques sur le racisme en France. Elle nous mène à plonger au cœur des représentations et de l'imaginaire qui participent de façon générale de la création artistique. Dans ces représentations et dans cet imaginaire, le corps du colonisé, le corps de l'homme noir ou de la femme noire, après avoir été un corps ridicule et laid, est aujourd'hui un corps victime, un corps souffrant, un corps subalterne, un corps réfugié, un corps noyade en Méditerranée, un corps servante, un corps femme voilée ou un corps de toute beauté, à nouveau fortement sexualisé. Ce corps, lorsqu'il se retrouve mis en scène, a encore pour objectif de manifester la pensée de l'homme européen blanc dans tous ses méandres. Il concourt à permettre l'expression de la magnanimité et de la compassion, qui sont, tandis que les dominations perdurent, l'autre face de l'intransigeance et des possibles cruautés. De même manière que la charité est la face du dimanche d'un maître ou d'une maîtresse qui en semaine exploite et met en esclavage. Et chacun demeure à sa place. Gertie Dambury.
Ainsi, messieurs les directeurs de théâtre, les directrices de théâtre étant minoritaires, je choisis ici de m'adresser à la classe dominante de la profession. Lorsque votre regard se travestit par peur de questionner l'inconnu, vous refusez de vous confronter aux exercices que vous tentez vous-même de mettre en pratique dans les quartiers populaires. Lorsque des artistes y descendent pour initier les jeunes profanes aux grands textes de théâtre, vous demandez aux jeunes gens de s'ouvrir à l'inconnu, alors que vous démontrez votre incapacité à le faire. Vous refusez de vous ouvrir à un monde étranger. Vous martelez à qui veut bien l'entendre qu'il faut apprendre à sortir de sa zone de confort, alors que vos postures face à ce qui vous échappe trahissent les ressorts de vos dispositifs d'autodéfense intégrés. Incompréhension, stupéfaction, abandon, démission, critique, condescendance. Soit exactement le type de mécanisme que vous décriez quand une population dont vous ne connaissez rien ou si peu est réticente à pousser les grandes portes qui mènent à votre monde. Vous énoncez implicitement que seules vos valeurs, vos esthétiques et vos expertises ont droit de cité. D'être cabale.
Pour moi, la seule question qui vaille est celle de ce qui est urgent à dire et comment le dire. Les urgences que je me définis à moi-même ont évidemment trait à mon histoire, à ma trajectoire d'homme africain. Ni le choix de mes sujets, ni le choix des acteurs avec qui je travaille ne dépendent de ce sentiment d'être colonisé. Mais je ne suis pas dupe de la complexité du milieu dans lequel j'exerce mon métier. Il y eut pourtant des moments de colère et de découragement. On ne naît pas noir. On le devient. Mes origines m'ont souvent été rappelées par les décideurs des politiques publiques de la culture. Discrimination positive, diversité constituent des propos allusifs qui me renvoient à mes origines raciales sans vraiment le dire. Ma singularité d'artiste ne m'est pas reconnue au même titre que d'autres artistes considérés comme dans la norme. Ce constat-là m'est douloureux quand je sais qu'en fait il me renvoie systématiquement à un communautarisme supposé si j'évoque par exemple l'esclavage. Les scènes publiques, nationales ou municipales, ouvrent très peu leurs portes à ces sujets ayant trait au colonialisme, honteux aux yeux d'une France universaliste, honteux aux yeux des professionnels généreux et de gauche. Hassan Kassikouyaté.
« Je m'affirme hors norme, racisée, non reconnue à part entière dans ce qui me relie à ce pays. L'affirmer n'est pas se poser en victime. C'est faire montre d'une énergie qui apparaît souvent aux yeux des plus frileux comme une insolence. Les sujets que je propose sont souvent considérés comme tabous. Et si ce n'est pas le sujet, c'est le point de vue. Il faut du courage aux décideurs culturels pour faire face aux injonctions électoralistes et ne pas présumer du choix de leur public. Décoloniser les arts, ce n'est pas chercher des coupables descendants de colons. Il faut avoir le courage d'ajouter au roman national des chapitres nuancés, complexe, sombre, mais pas seulement. L'apaisement et la cohésion s'appuient sur cette reconnaissance. Il nous faut des outils d'appropriation. Il nous faut autoriser ouvertement les récits de toutes les composantes de la société française, particulièrement des 30% d'individus non blancs chez qui déjà sont nés depuis des décennies des formes artistiques vivifiantes. Mohamed Guelati.
Résister, c'est cultiver le secret. Développer un discours qui donne la priorité au parcours et aux problèmes des minorités. Offrir un espace d'émancipation et de liberté qui permette de résister contre le déni de nos histoires, opéré par une certaine histoire de l'art réservée à une élite. Que faire face au déni et à la marginalisation dans l'histoire et la critique d'art conventionnelle, chasse gardée de l'euro-patriarcat du monde de l'art dominant? Offrir un espace réparateur face aux infiltrations de l'institution par des idées fascistes. Urgence. Être dans l'action, pas dans l'idéologie. Refuser les porte-voix et les porte-paroles qui viennent nous observer comme dans un zoo humain. Refuser que l'on parle de nous et écrive sur nous sans nous. Il est temps que les racisés s'expriment en remplissant les silences. Il est temps de s'émanciper de l'aliénation qui nous empêche d'être un et nous à la fois, sans tuer ou écraser l'autre. Il est temps d'être maître de son calendrier et de son temps afin de ne plus subir. Pascal Obolo.
Dans le champ de la danse, décoloniser les arts reviendrait à trouver des narrations qui prennent en compte le contexte de mondialisation dans lequel différentes formes d'art se croisent pour témoigner de la complexité des individus racisés. La version occidentale de l'universel est une tricherie. En effet, si on prend en compte que nous sommes dans un contexte culturel mondialisé, on se rend compte que ce même universel eurocentré pratique l'appropriation culturelle de masse dans le but de renouveler ses narrations et prive les groupes spoliés de la possibilité d'ancrer des écritures légitimes et modernes. Tout en prenant garde à l'auto-essentialisation, les danseuses, danseurs et chorégraphes racisés doivent faire de la résistance en refusant les injonctions esthétiques institutionnelles qui, au nom du vrai art, les cantonnent aux seuls endroits de la pop culture ou du folklore versus ceux de la culture savante et occidentale. Sandra Sainte-Rose Fanchine.
L'excellence minore les artistes racisés. Elle les discrimine en quantité. Elle les infériorise en qualité. Tout comme on disait du noir qu'il était un grand enfant, les artistes noirs, jaunes, arabes, seraient comme restés dans l'enfance de l'art. Il faut les former, voire les conformer aux normes existantes. Parfois, quelques personnalités de notoriété intègre dans des projets personnels un peu de hip-hop, un peu de slam. On picore quelques grands auteurs de couleur, on poivre d'un peu d'interprètes exotiques sans prendre en compte les récits intimes. Cela conduit le plus souvent à l'atténuation de la puissance dérangeante des formes innovantes, précisément parce que les récits intimes sont évacués. Les industries culturelles repèrent et récupèrent ce qui émerge en ciblant un public jeune, source de profit. La starisation dans des cadres codifiés et rémunérateurs confine au folklorisme des jeunes des quartiers. Dans les deux cas, s'opère une confiscation, un dessaisissement de soi. Au prétexte de l'excellence artistique, une culture occidentale fermée sur elle-même persiste à se croire prééminente. Leila Kuckermann.
tourner le dos à une posture frontale de la lutte et dans une certaine mesure à ses imaginaires romantiques, ce n'est cependant pas manquer de courage, ni oublier combien il a fallu parfois, il faut et faudra encore, faire corps. Apparaître comme acte de résistance. Être là comme puissance de vie face au pouvoir nécropolitique. Mais il nous faut à la fois mesurer. Peut-être au même moment où des figures minoritaires deviennent visibles, notamment en France, les risques de cette visibilité si souvent légitimement réclamée et désirée. Et ouvrager en secret une manière d'échapper à la capture. Une façon de négocier sa présence. Décoloniser, c'est peut-être produire ce corps qui surgit sans prévenir dans un double mouvement contradictoire, en affirmant sa présence et en ouvrageant sa fuite à la fois. Sa fuite vers un lieu sûr. Et ce deuxième mouvement demande de prendre soin de la manière dont s'institue le lieu, dont se négocient sans cesse ses conditions. Fuir, ce n'est pas s'en aller définitivement. C'est rôder un peu plus loin des centres, dans la périphérie. C'est déplacer la scène vers une autre lumière comme on tire discrètement la nappe du maître en quittant les lieux par une fenêtre cassée. Et ainsi, toute la table, les plats, les couverts et les bonnes manières, la sueur et la connaissance, les animaux morts et les plantes voyageuses nous accompagnent de leur musique de fracas jusqu'à l'endroit où ne circule plus aucune police. Ainsi peut débuter le festin et l'examen des prises de cette scène qui a perdu de son ordre et de son autorité. Olivier Marbeuf.